On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode.
Hello à toutes, hello à tous, très heureux comme à chaque fois parce que je suis podcasteur, j'ai des invités, donc je suis toujours très content quand j'accueille quelqu'un. J'accueille aujourd'hui Nina. Nina Senoyer qui... je ne vais pas vous dire ce qu'elle est, va vous le dire. Bon, elle est spécialisée en rédaction web SEO. Comment j'ai rencontré Nina ? J'ai notamment lancé un challenge il y a quelques temps sur les réseaux, LinkedIn, et puis mettre en avant les premières fois dans l'entrepreneuriat. Donc l'idée était assez simple, c'est que chacun puisse parler de ses premières fois dans l'entrepreneuriat. Et c'était les meilleurs posts qui avaient le plus de commentaires, le plus de likes. Et les personnes qui auraient justement plus d'interactions sur ces posts-là auraient une participation dans le podcast. Donc j'ai pas mal de gens qui ont été contents et qui ont joué le jeu. Donc je suis très content aujourd'hui de t'accueillir, Nina. Merci d'avoir joué le jeu. Tu as fini première de ce challenge. Donc très content que tu sois là. Dis-nous tout, qui tu es, te présenter, présente-toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, on t'écoute.
Salut Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir, je suis vraiment trop, trop contente d'être là en face de toi aujourd'hui, c'est vraiment trop cool. Alors moi je m'appelle Nina, j'ai 31 ans depuis avant-hier, donc c'est vraiment tout récent.
Happy birthday.
Merci beaucoup, je suis donc spécialiste en rédaction web SEO, je fais aussi du conseil en stratégie digitale. Et j'ai deux enfants, tout petits. Et voilà, j'habite dans le Val-de-Marne. Et puis, je travaille essentiellement avec les femmes, surtout des dirigeantes de TPE, de PME, pas mal de solopreneuses. Et j'accompagne les femmes vraiment à booster leur vente, leur chiffre d'affaires, leur visibilité, à travers la bonne création de contenu sur les internets. Donc voilà, vaste programme.
Ok, top. Merci pour ta présentation. Si je suis un petit peu débile, que je connais pas vraiment ton métier, concrètement, tiens, on me dit, va voir Nina, elle va t'aider. Qu'est-ce que tu vas m'apporter, moi, par exemple, sur la partie web SEO ?
Eh ben, qu'est-ce que je vais t'apporter ? Je vais t'apporter du trafic sur ton site. Moi, mon projet, en fait, mon métier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de créer du bon contenu, d'écrire des choses qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qui sont simples, qui sont percutantes, qui vont plaire, en fait, aux gens qui vont passer sur ton site, à tes prospects, à tes lecteurs, à tes clients, mais aussi aux moteurs de recherche, en fait, à Google, principalement. Donc, c'est-à-dire comment trouver cet équilibre entre... produire quelque chose qui va générer, aller vers tes objectifs, donc ça va être de la vente ou de la visibilité ou attirer des gens sur ta newsletter, je te dis n'importe quoi, et en même temps, faire plaisir, draguer un petit peu les moteurs de recherche de façon à ce que ton site puisse remonter au maximum dans les intentions de recherche de tes personas pour qu'ils te trouvent, en fait, tout simplement quand ils tapent quelque chose sur Google.
Ok, donc c'est de la séduction web pour gagner en visibilité, quelque part.
C'est ça.
Ok, top. Merci à toi pour ces précisions. On aborde du coup ensemble notre première fois, enfin ta première fois, ton premier échec professionnel, c'est-à-dire que tu as déjà tenté quelque chose avant la partie web SEO, on y reviendra plus tard, c'est-à-dire que tu étais dans le marketing de réseau. Finalement, tu t'es rendu compte que ça ne te correspondait pas vraiment. Comment t'en es venu justement à te dire « je vais lancer quelque chose autour du marketing de réseau » et pourquoi du coup ça ne t'a pas plu ?
Alors, avant le marketing de réseau, j'ai passé 7 ans dans le salariat. J'ai travaillé, j'ai été chargée de prod pendant des années. J'ai d'abord travaillé dans la musique pour un label, après pour un tourneur, pour un festival aussi, beaucoup dans les musiques du monde. Et j'adorais ça, sauf que je me suis rendu compte que le rythme... imposé entre guillemets par le secteur de la culture, surtout de la culture musicale à Paris, est très nocturne et que moi c'était vraiment pas mon truc. Donc je suis partie un peu de ce milieu-là pour arriver dans la production audiovisuelle. Pendant 2 ans j'ai été dans une start-up, une marketplace de photographes pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, bah, Covid, un peu comme tout le monde, quoi, parcours assez classique, Covid, confinement, moi enceinte à ce moment-là de ma fille, 2020. Donc, forcément, chamboulement, découverte du télétravail, grosse remise en question, tatatatata, enfin voilà, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à ce moment-là. j'ai besoin de quitter mon travail, je sens que j'en ai marre, je sens que je suis plus à ma place, que je comprends plus trop ce que je fais, et se présente en fait à moi l'opportunité du marketing de réseau. C'est vraiment une question de timing. À ce moment-là, j'ai besoin d'une sortie de secours en fait, assez facile, assez immédiate, et j'ai l'impression de trouver ça là-dedans. Et finalement, je me rends compte pas très vite, mais plutôt assez quand même. Enfin, je me rends compte qu'il y a comme une espèce de fausse note dans ce que je fais, mais j'ai du mal à vraiment la percuter. Ça me prend un an, donc pendant un an, je fais quand même du marketing de réseau. Mais je sens que voilà, que j'essaye vraiment de faire rentrer un rond dans un triangle, ça marche pas. Et je finis par me dire, ok, bah, je crois que c'est vraiment, vraiment pas pour moi. Mais je me suis quand même pas mal perdue en cours de route. Voilà, j'ai passé un an à travailler sur ce projet qui finalement n'était pas la bonne voie, en fait, tout simplement. Et ce chemin de devoir percuter, assumer le fait que je me sois trompée, ça a été un petit peu long et un petit peu douloureux pour moi. Donc c'est vraiment au bout d'un an de marketing de réseau que je me suis dit ok stop, faut vraiment que je trouve autre chose, faut que je fasse autre chose, c'est pas fait pour moi quoi. Donc voilà, donc il y a eu d'abord 7 ans dans le salariat, 1 an de marketing de réseau, un gros stop parce que ça s'est pas très bien terminé et vraiment une claque et une obligation de m'arrêter et de vraiment me poser et me dire ok ma vieille, qu'est-ce que t'as envie de faire, arrête-toi 2 secondes et pose-toi les bonnes questions quoi.
Ok, bon, ok ma vieille, t'as 31 ans, mais bon, c'était une expression,
c'est une expression bien sûr,
ok,
encore plus jeune à l'époque.
Marketing de réseau, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Le marketing de réseau, comment ? Il a plein de noms en fait. On appelle ça aussi le marketing relationnel, le MLM, marketing collaboratif, hein, on l'appelle de plein de façons différentes. Franchement, je ne saurais pas très bien le résumer, enfin, je ferais voilà, avec mes mots, mais en gros, c'est de l'achat-revente. C'est-à-dire qu'on est affilié en quelque sorte à une grosse société. Et on fait du marketing tout seul vers d'autres personnes. C'est vraiment acheter et revendre des produits, des services. Je crois qu'il y en a qui font ça avec du service aussi. Enfin, voilà. On est son propre marketeur et on essaye de vendre ses services et ses produits, les services et les produits d'un organisme à quelqu'un d'autre.
Ok. Bon, c'est une forme de partenariat, d'affiliation. Ouais, c'est un peu ça l'idée.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Sauf que voilà, moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais vraiment faite pour travailler seule et pas du tout dans le relationnel. Donc, c'est aussi pour ça que ça n'a pas matché.
Top. Ce que j'aime bien dans cette première fois, c'est que bon, t'es parti sur une idée. Donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais pas forcément avec la bonne idée. Quand je dis la bonne idée, c'est pas péjoratif. C'est dans le sens, tu vas te rendre compte que ça te correspond pas. Et bon, j'allais dire très vite, mais t'as mis du temps à te rendre compte que c'était pas la bonne direction, la bonne voie. Mais c'est un message fort que tu envoies pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas parce que ça a pas fonctionné qu'on doit abandonner au projet justement de liberté qu'on veut dans l'entrepreneuriat. Quand j'entends liberté, attention, ça s'acquiert pas au bout de 6 mois, 1 an, c'est beaucoup plus long que ça. Je parle vraiment de liberté de faire ce qu'on a envie. De ce côté passionnel qu'on a envie de mettre en avant. Donc, pour ça que j'aime ce message, parce que tu as envie vraiment de dire, voilà, c'était pas ma voie, mais après, tu as été réfléchir, tu t'es posé avec toi-même pour savoir réellement ce qui t'intéressait, pour savoir vraiment ce que tu avais envie de faire. Et ça nous amène du coup à cette deuxième première fois où on parle de ton premier vrai lancement, cette fois-ci sur la partie web SEO. Du coup, comment c'est venu et est-ce que c'était une évidence pour toi ?
Ouais, exactement. En fait, cette fausse première fois, non, c'est une vraie première fois, mais en fait, c'est vraiment la première fois de ma vie que je me plante grave. Moi, j'ai toujours eu un peu le syndrome de la bonne élève. C'est un peu pénible parfois, mais j'ai souvent été première de ma classe. Il faut que quand je fasse les choses, il faut que ce soit vraiment très, 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 très bien. Faut qu'on soit toujours content de moi. Tu vois, j'ai un peu ces pilotes là. Tu sais, on les connaît, les 4 pilotes, sois parfaite, fais un effort, etc. Et moi, c'est un peu le sois parfaite. Et c'est la première fois de ma vie que vraiment je me plante, quoi. Je me trompe complètement. C'est l'échec avec un grand E, on va dire, mais un échec qui m'a, voilà, que je remercie tous les jours parce que sans ça, sans ce plantage, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est vraiment cette claque que je me suis prise à la fin qui m'a obligée à me poser et à me dire qu'est-ce que tu veux faire en fait, pourquoi t'en es là, pourquoi t'as choisi ça, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça quand même, parce que j'ai quand même choisi d'y aller à un moment donné, personne m'a forcé. Ok, je crois que c'est l'entrepreneuriat, effectivement, je crois que c'est le fait de construire quelque chose moi-même à mon image et de bosser seule et de mener ma propre barque. Maintenant, le modèle ne me plaît pas, je suis pas faite pour ça, mais qu'est-ce qui est fait pour moi ? Et du coup, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant à ce moment-là, donc aussi obligée de ralentir le rythme, de lever le pied et de me reposer, parce que une grossesse implique beaucoup, beaucoup de fatigue, surtout quand on a un premier à gérer. Et donc non, la rédaction même n'est pas du tout arrivée comme une évidence dans ma vie, parce que je ne connaissais même pas ce métier quand j'ai commencé à faire cette introspection. J'en avais jamais entendu parler. Moi, j'ai vraiment une formation de lettres, j'ai une licence de lettres, j'ai un master de culture communication, donc j'ai quand même ce truc avec les mots, avec la littérature qui est très très fort. Je suis une grosse littéraire pure souche. Mon livre de chevet, c'est Zola, c'est Hugo. Enfin, c'est vraiment, j'aime ça depuis toujours. Mais j'avais un peu ce blocage, cette croyance limitante de, si tu veux bosser avec les mots, soit t'es journaliste, soit t'es prof, soit t'es autrice ou écrivaine. Et en fait, il y a aucun de ces métiers-là qui m'appelait. Mais c'est des recherches métiers qui datent de quand j'ai eu ma licence il y a 10 ans, en 2013, la rédaction web. SEO n'existait quasiment pas, enfin, on n'en parlait pas du tout. Donc, j'ai vraiment dû aller chercher ce métier-là, le découvrir toute seule. Personne ne m'a mis sur le chemin. Enfin, j'ai fait du parcours un petit peu avec Pôle emploi qui m'a donné des pistes, des trucs, des machins, mais je ne connaissais pas ce métier. C'est vraiment en faisant de la veille, en me disant « Ok, quelles sont les alternatives disponibles ?» qu'un jour, un beau jour, je suis vraiment tombée par hasard sur ce métier. Je me suis dit « Oh, mais c'est quoi ce truc ?» J'ai cliqué sur la fiche métier et ça a été, là, pour le coup, ça a été déclic. Ça cochait vraiment toutes les cases de ce que je cherchais.
Ok, donc déclic, révélation, tiens, ça me correspond. Pourquoi tu n'y avais pas pensé à moi et qu'est-ce qui a fait qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux justement dans cette fiche métier qui t'a paru être la bonne voie à emprunter ?
Qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux ? C'était vraiment pour moi un espèce de conglomérat de tout ce que je cherchais, c'est-à-dire un métier où je peux écrire, un métier où je peux écrire sur Internet parce que les médias presse, le média papier ne m'a jamais beaucoup attiré. C'était ça qui me bloquait aussi beaucoup avec le journalisme, c'est que je me disais je sais que j'aime écrire, je sais que je me débrouille, mais j'ai pas envie d'écrire du tout. Je suis pas du tout branchée magazine, même féminin, presse papier. Enfin, je veux dire, j'en ai jamais eu chez moi. C'est vraiment ridicule de me lancer là-dedans. Donc voilà, je me disais écrire pour le digital. De chez moi, parce que clairement, télétravail, vie, je ne jure que par ça, je suis vraiment pas faite pour retourner en open space, dans une équipe d'entreprise. J'ai vraiment envie de bosser seule chez moi avec mon café et de récupérer mes enfants en 3 minutes le matin et le soir, c'est tout ce qui m'importe. Donc ça cochait vraiment tout ça et un métier où on peut aussi bien gagner sa vie parce qu'on sait que le pigisme, par exemple, même si t'écris pour... parce que du coup, je pige aussi pour la mairie de ma ville à Vitry-sur-Seine, c'est pas des métiers, enfin voilà, faut vraiment beaucoup piger pour avoir un salaire moyen. Quand on a 2 enfants, forcément on compte un peu les cacahuètes. Si on fait que des piges, c'est un peu pénible. Donc je savais que le SEO, c'était aussi un métier où on pouvait gagner sa vie un peu plus confortablement. Donc je me suis dit banco, ça coche vraiment tout ce que je cherche, quoi.
Et le pigisme, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi?
Alors le pigisme, en fait, c'est du journalisme, tout simplement. Moi, je pige pour ma vie, c'est-à-dire que je réalise des petits articles. On me contacte de façon ponctuelle, 1-2 fois par mois, pour me demander d'aller couvrir un événement ou de faire des brefs pour le magazine de la ville ou d'interviewer telle personne. Voilà.
Ok.
Le pigisme, en fait, c'est quand on n'est pas rallié, quand on n'est pas affilié entre guillemets, rattaché à un média en particulier. On peut piger pour plein de médias différents, pour des sites différents, etc.
Ok. Donc, t'as eu ce déclic en regardant cette fiche métier pour te dire tiens, c'est là où je veux aller. C'est plutôt cool, parce que c'est ce que tu fais encore actuellement, donc ça prouve que ça te correspond plus et mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du fait de, parfois, pas chercher justement à tout prix quelque chose pour prendre ce qui se présente à nous, mais plutôt, excusez-moi les invités les auditeurs et auditrices, je suis en train de m'étouffer. On est en direct, ça montre juste qu'on est un podcast humain et c'est comme ça. Ma question, en gros, c'était quoi ? C'était de savoir s'il faut absolument chercher une voie ou parfois laisser un petit peu les choses venir et puis saisir l'opportunité quand elle se présente. Est-ce que tu es d'avis à avoir cette vision-là ? Comment tu vois les choses par rapport à ça ?
Je suis complètement d'accord avec toi de cette petite expérience, maigre expérience que j'ai en la matière. J'ai vraiment le souvenir de sortir de donc cette expérience de MLM très fragilisée. Ça a été une période vraiment vraiment compliquée parce que pour le coup mon couple en a pris un coup, mes relations familiales, mes relations amicales, tout a été vraiment abîmé par cette fin de parcours. Donc je suis sortie de cette expérience assez vulnérable et très fragile, et surtout avec l'impression très forte que bah du coup il y avait pas de métier qui était fait pour moi quoi, que c'était vraiment le flou, que en plus je m'étais bah du coup carrément plantée cette fois-ci et que je m'en étais pas rendu compte, que tout le monde s'en était rendu compte sauf moi, et que du coup qui me dit que ça va pas recommencer avec un autre métier et qu'en fait bah je me connais pas et que c'est une cata, enfin bref, super fragile à ce moment-là, et de me dire bah attends, en te posant justement, laisse un peu voir comment ça se passe. Apprends à te connaître, vois ce qui se présente à toi. En l'occurrence, je pointais à Pôle emploi à ce moment-là, enfin France Travail maintenant, et il me propose de me mettre en contact avec des trucs de un peu de talent de solution, etc. Et de me dire bah ok, fais des tests de personnalité, fais des trucs ultra simples, ultra faciles, et vois ce qui se présente. Et en fait, c'est vraiment en faisant ça, en faisant les choses petit à petit, en apprenant à me connaître, parce que c'est vraiment une grosse phase d'introspection. Déjà, j'ai découvert que j'étais une créative. Pour moi, c'était vraiment genre mes premières nouvelles. Ah bon, moi, je suis créative, je suis même pas au courant. Enfin, un petit peu, mais on va dire que je l'ai jamais assumé jusqu'à maintenant. Ah bon, moi, je peux avoir un métier où on produit des choses créatives, mais c'est incroyable. Après 7 ans dans la prod, où on fait que des feuilles de route et des fichiers Excel. Donc, j'ai vraiment laissé venir ce truc-là, en me disant bah à la limite laisse-toi surprendre, et encore plus en découvrant la rédaction, en me disant ah mais je connais pas ce métier, j'en ai jamais entendu parler, tiens mais je crois que ça me plaît bien, je vais essayer, je vais rencontrer peut-être un ou deux rédacteurs pour voir ce que ça donne. Donc je me suis vraiment laissée porter par le truc en me disant fais confiance, de toute façon tu vas pas rester toute ta vie à pointer au chômage, il va bien se passer quelque chose à un moment donné, tant que t'es dans l'action, tant que t'essayes de rester curieuse, en tout cas, de voir ce qui se passe autour de toi, sans non plus être dans un truc non plus de routine, tu vois, d'acharné. Donc voilà, plutôt partisane de ce que tu dis.
Ok, et c'est comme ça du coup que tu as trouvé ta voie. Top. Mmh. On aborde du coup cette troisième première fois. C'est la première fois que tu as été coupée dans ton élan. C'est-à-dire que là, tu t'orientes vers la voie que tu as trouvée grâce à ce déclic, cette fiche métier qui te fait dire « c'est bon, c'est là que je dois aller ». Mais finalement... Finalement, il y a un heureux événement qui arrive, donc tu es enceinte de ton deuxième fils, tu continues cette formation, et puis là, tu es coupé dans ton élan parce que tu dois arrêter cette formation, et il n'y a rien de plus terrible, entre guillemets, je pèse mes mots quand je dis ça, parce qu'il y a un bébé qui arrive, donc c'est plein d'émotions, c'est magnifique. Ce que je veux dire, c'est terrible dans le sens, tu trouves enfin un truc qui te correspond, et puis là, finalement, tu dois arrêter, tu es un peu obligé. Donc comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu étais un peu mitigé, c'est-à-dire tu es dégoûté, mais quelque part, tu es heureuse aussi parce qu'il y a ton deuxième enfant qui arrive. Raconte-nous un petit peu cette première fois.
Alors, effectivement, au moment... donc, je tombe enceinte, en fait, en octobre 2022. Donc, à peine dans cette phase de repos, à peine lancée dans cette phase de repos où je suis censée vraiment breaker, prendre soin de moi. Je vais beaucoup au cinéma à ce moment-là, parce que je vais beaucoup au cinéma en général dans la vie. Je prends du temps, etc. Et en même temps, je me lance dans ce parcours de reconversion où je me dis, bah voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Et en fait, bah, je décide du métier que j'ai envie de faire. Je trouve une formation, qui colle à mon projet, que je peux me faire financer par Pôle emploi si je fais un dossier béton, donc ce que je fais. Sauf que cette formation dure donc 3 mois et demi, commence en février, termine fin mai, et moi j'accouche mi-juillet. Donc c'est vraiment ultra short, et je me dis, ok, j'espère juste que ma grossesse va bien se passer, j'espère juste que je vais être assez en forme, parce que premier trimestre, comme beaucoup de femmes, grave la nausée, pas bien du matin au soir, super fatiguée, bref, la grossesse. Donc, je me dis, j'espère juste que de février à mai, ça va aller et que ça va bien se passer. Mais surtout, qu'est-ce que je fais après, quoi ? Parce que je fais ma formation et puis je vais pas pouvoir me lancer, quoi. Parce que, pour le coup, fin de grossesse, pour toutes celles qui ont eu des enfants, on le sait, c'est chaud, on est fatigué, on a les jambes, surtout en été, qui font la taille de poteaux de lampadaire de la ville. Enfin, c'est très compliqué. Donc, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. J'y vais, mais j'improvise, quoi. J'ai eu de la chance, ma grossesse se passe super bien, je suis en forme. En plus, du coup, je suis formation distancielle, donc je suis chez moi. Je peux m'économiser à fond à ce niveau-là. Et ma formation se termine le 31 mai et... l'assurance maladie m'annonce que mon congé maternité commence le 1er juin. Donc, c'est une espèce de synchronicité extraordinaire qui me fait penser, enfin qui m'oblige un peu à me dire, ok, tu as terminé ta formation, maintenant c'est vraiment le moment de se poser et de se reposer. Sauf que je ne suis pas quelqu'un qui sait vraiment beaucoup beaucoup se poser et se reposer, ça fait pas trop partie de ma nature. Je suis plutôt quelqu'un d'intense. Quand je fais des choses, surtout quand je me lance dans des projets comme ça, je dors avec, je mange avec, je fais tout avec, je suis tout le temps avec. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi parce que je n'ai absolument pas pu me lancer tout de suite. Déjà, légalement, j'avais pas le droit parce que j'étais au chômage. Ensuite, en congé mat et créer une entreprise dans ces cas-là, donc vraiment créer un numéro de tiret pour pouvoir facturer, ce qui est obligatoire quand on est entrepreneur, c'était impossible pour moi parce que ça me faisait sauter toutes mes allocs de congé maternité et vraiment, j'avais pas du tout envie que ça se produise, évidemment. Donc, je pouvais pas travailler. C'est même pas que je me dis... je l'ai fait un peu en loose day, je ne pouvais pas travailler, sinon je me faisais vraiment rattraper par l'URSSAF ou par je ne sais pas qui, et ça n'allait pas très bien se passer pour moi. Donc, j'ai écrit bénévolement pendant un moment. Pendant ma formation, évidemment, j'ai commencé à réseauter, j'ai commencé à prospecter, je me suis dit que je n'avais pas de temps à perdre, en fait, parce que la rentrée allait être trop douloureuse en septembre, sinon. Et j'ai poussé jusqu'au dernier moment des tentatives de prospection, de réseautage, de rédaction d'articles optimisés, de etc. jusqu'au bout du bout, parce que le 3 juillet, j'étais encore en call client, sachant que mon terme c'était le 13, donc j'étais vraiment je recommande pas. Franchement, j'étais hyper stressée parce que jusqu'au dernier moment, je voulais jouer en me disant j'espère que je vais pas accoucher avant, mais je ne leur dirai rien. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ce rendez-vous client, mais si je l'annule 3 minutes avant parce que j'ai des contractions, ça la fout vraiment mal. Mais je l'ai fait quand même parce que je suis comme ça, parce que c'est un peu la vie que j'ai choisie aussi, mais parce que aussi j'avais tellement peur de m'arrêter et de tout oublier. En fait, tout simplement, ma formation, elle était toute fraîche, toutes mes connaissances, tout ce que j'avais acquis, c'était super frais. J'avais même pas encore pu envoyer mon portfolio pour recevoir ma certification, en fait mon examen final en quelque sorte. Je pouvais pas l'envoyer avant d'accoucher, j'ai dû l'envoyer 2 jours après. Donc j'étais vraiment sur la limite et tout ça était super stressant parce que je savais qu'après j'allais avoir un deuxième enfant, que j'allais avoir mon fils, que j'avais déjà ma fille à gérer et que mon cerveau ne serait juste pas disponible de l'été et que j'allais passer 2 mois et demi, voire 3 mois sans écrire, sans produire, sans faire d'audit SEO, sans réfléchir, sans prospecter. Et que j'allais vraiment me retrouver limite à poil en fait en septembre, à tout devoir recommencer à zéro, à devoir reprendre toutes mes notes, tous mes cours. Et ça, c'était super, super anxiogène pour moi. Donc, j'ai vraiment poussé le bouchon jusqu'au bout. Ma sage-femme n'était pas très contente, mon mec n'était pas super content non plus. Mais j'ai pas réussi vraiment à tempérer à ce niveau-là.
Je comprends. Position pas simple, pas évidente. Personne peut juger aujourd'hui une situation parce que chacun a une personnalité, un caractère qui fait que quand on a envie d'aller au bout des choses, c'est justement pour se sentir libre, ne rien regretter et puis faire les choses parce qu'on a envie. Après, bon, il y a l'entourage aussi qui nous pousse des fois soit à continuer, soit à arrêter. Et là, bon, dans ton cas, c'est pour avoir un deuxième enfant, forcément, ton conjoint, il veut aussi te préserver toi et aussi le bébé, forcément, c'est humain, c'est intelligent aussi. Mais c'est pas évident, c'est pour ça que je me mets aussi à ta place, de te dire, t'es en train d'apprendre des choses, t'as pas vraiment le temps de le mettre en pratique, c'est tout frais, comme tu dis, donc tu vas peut-être l'oublier, donc... Vraiment pas évident, mais qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une personne qui nous écoute et dans la même situation que toi, toi qui l'as vécu, toi qui étais au bout des choses, est-ce que tu lui dirais ma cocotte, fonce, va au bout des choses, continue, on s'en fout, ou au contraire, avec du recul, maintenant tu dirais prends plus de temps pour toi.
Je peux pas dire ça parce que je le pense pas. Je pense que je dirais à cette personne de ne pas sous-estimer les bons conseils de son entourage. Moi, je sais que je dis que mon mec était pas très content, mais heureusement qu'il est là pour me canaliser parfois, parce que sinon j'ai trop tendance à me cramer tout le temps. Et c'est vraiment très souvent lui qui me dit redescends, calme-toi, arrête-toi un petit peu, va pas trop vite, sois moins impulsive dans tes choix. Donc à titre hyper personnel, et en reflet de ma situation, et j'ai toujours un petit peu de mal à, à donner des conseils aux autres, parce que je trouve que chaque situation est tellement, tellement intime et personnelle et subjective, mais j'aurais tendance à dire, voilà, prends en compte ce que pensent les gens qui te connaissent parfois mieux que toi-même, tu te connais. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai parfois que mes amis me connaissent mieux que moi-même, que le père de mes enfants me connaît mieux que moi-même, et ça fait du bien, parfois, que quelqu'un réfléchisse un peu à notre place, en fait, je trouve. Maintenant, je suis aussi contente de m'être écoutée, d'être allée au bout de ce que je voulais faire. Je me suis pas mise en danger non plus. Je pense qu'il faut s'écouter, bien sûr, à ce niveau-là aussi, si le corps ne le permet pas. Il faut pas le forcer. Il faut, surtout quand on est enceinte de 8 mois et genre 2 semaines et que voilà, on est tout au bout du bouffe. On s'écoute. De toute façon, le corps nous rappelle très, très bien dans ces moments-là quand il veut pas aller plus loin. Donc, on pousse pas. On essaye d'être un peu en phase avec son intuition. Est-ce qu'on peut parler d'intuition à ce moment-là? Voilà. Je pense que je dirais, essaie de trouver le juste équilibre entre écoute tes amis, écoute ceux qui te connaissent très, très, très bien, et écoute-toi aussi 50-50, et tu devrais savoir à peu près ce qu'il faut faire dans ces moments-là.
Tu as dit qu'il fallait pas pousser. C'est vrai que dans ces moments-là, il vaut mieux pas pousser, justement. Faut attendre 15 jours de plus et puis pousser le moment venu. Merci à toi pour cette transparence et puis ces émotions qui se dégagent de tout ça. Et je pense que ça peut vraiment toucher et donner un petit peu une ligne directrice de ce qu'il faut faire, entre guillemets, ou pas faire. Chacun après est libre de l'interpréter comme il le veut et qu'il le souhaite. Quatrième première fois, on continue ce podcast hyper enrichissant. Moi, j'aime beaucoup échanger avec toi. Ta première bourde, ta première erreur, quelque part. Quand on est entrepreneur, on en fait plein. Et puis les erreurs, pour moi, c'est positif. Ça veut dire qu'on tente. Hein. Il y a que ceux qui sont sur le canapé qui font pas d'erreurs qu'on peut juger, entre guillemets. Surtout que cette première bourde dont tu vas nous parler, c'est ça qui t'a fait être dans le podcast, parce que c'est comme ça que tu as relevé le défi du challenge. Je crois que tu as récolté sur LinkedIn un peu plus de 400 likes de mémoire.
Exact.
Donc dis-nous tout, comment ça s'est passé, c'était quoi ta bourde? Je crois que tu étais encore enceinte notamment. Vas-y, je t'en prie, à toi.
J'étais super enceinte. C'est un des plus grands moments de solitude de mon court parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui me fait bien marrer. Et franchement, si j'avais su à ce moment-là que ça m'amènerait devant toi pour raconter cette histoire et que ça aurait pu me faire gagner un concours comme celui-ci, j'aurais moins dramatisé, parce que voilà, c'était un peu drama queen à ce moment-là. Alors, on est au mois de mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, je suis hyper enceinte. Je suis à 8 mois de grossesse, un tout petit peu moins peut-être. Et comme je le disais juste avant, je suis un peu dans le feu du truc. Je suis dans ma formation. J'ai envie d'optimiser ce temps qui me reste pour faire un maximum de choses. Et donc, je commence à prospecter. Je me sens capable de le faire. Je sens que j'ai les connaissances, que j'ai un minimum de compétences pour me lancer sur le marché. Donc, j'y vais. Et quand je prospecte, en tout cas, pour moi, je ne vais que vers les entreprises qui me prennent au trip, qui me font rêver, que je connais, que je consomme, que j'adore, qui m'inspirent, etc. Je n'arrive pas à faire autrement. Donc, il y en a plein. Il y a plein d'entreprises qui me plaisent beaucoup. En général, quand je démarche, je fais mes devoirs, je vais sur le site avant, je regarde, je fais même un petit audit SEO, je regarde ce qui pêche, là où voilà, il y a une stratégie à mettre en place, etc., etc. Et je me mets dans un exercice où je fais ça un peu 10 fois d'affilée sur 10 entreprises que j'adore, en me disant bam bam bam, je capitalise, je m'entraîne, puis je fais ça comme ça, j'irai de plus en plus vite, etc. Et à un moment donné, il y a cette entreprise que j'adore, que je consomme, que je connais depuis longtemps, et je me dis oh, allez, je suis une dingue, je les contacte, j'y vais, qui ne tente rien n'a rien. Mais avec ce stress, tu sais, je pense que tu connais mais qui suis-je pour aller démarcher cette personne-là? Je suis tout petit, ils vont jamais me répondre ou ils vont m'envoyer bouler, mais voilà. Mais je me dis, allez, j'y vais quand même parce que j'aime l'exercice et j'aime ce que ça me fait faire, c'est-à-dire vraiment sortir de ma zone de confort. J'y vais. Et du coup, je fais mon travail habituel, je vais sur le site, je regarde vraiment, je peaufine, enfin, je travaille le truc à fond, ça me prend des plombes. Et j'ai vraiment un Google Drive que je tiens super bien, où j'ai tous mes mails de démarchage, mes plans d'attaque, pour que ce soit nickel, je suis assez organisée à ce niveau-là, j'aime bien, c'est bien, voilà, c'est tout nickel. Et je travaille toujours mes brouillons de mails sur un Google Drive avant pour qu'ils soient vraiment nickel et pas faire, tu sais, un peu le stress de dire, oh putain, si j'appuie sur envoyer alors qu'il n'est pas prêt, c'est la cata. Donc, je prépare tout sur Google Drive et après, bah, je le copie-colle sur Gmail et j'envoie. Et donc, c'était vraiment ce que je fais. Et à côté de ça, bah, il y a cette autre entreprise qui est concurrent number one de cette femme-là, parce que du coup, je démarche quasiment que des femmes dirigeantes. Que j'adore aussi, que je consomme aussi. Enfin voilà, c'est vraiment dans mon cœur de cible. Donc ces deux personnes-là, bah elles sont concurrentes, mais je les adore autant l'une que l'autre. Donc je me dis, bah je vais leur écrire à toutes les deux quoi. Et je prépare mon mail, je l'envoie à donc prospect numéro 1. Je le relis 15 fois. Enfin, je crois bien le relire 15 fois, mais je sens que je suis fatiguée, que ça fait vraiment 4 heures que je fais des audits SEO et que mon cerveau n'est plus vraiment disponible. Tu sais, vraiment ce moment où tu sens que tu relis mais que tu relis plus vraiment, que t'es plus frais quoi, que ça marche plus, que tu laisses passer 15 fautes, enfin tu vois. Mais je m'arrête pas pour autant parce que je veux atteindre cet objectif d'envoyer ce mail aujourd'hui. Et je finis par me dire ok, c'est bon, franchement tout est nickel, je peux lui envoyer, je suis hyper stressée, j'ai vraiment l'adrénaline, je le fais, je l'envoie, je serai hyper fière de moi et voilà. Et finalement je l'envoie, trop contente, le cœur qui bat la chamade, trop fière de moi, etc. En me disant, de toute façon, il y a quand même une chance sur 150 000 qu'ils me répondent parce qu'ils doivent recevoir plein de mails tout le temps et que mon mail va juste être une goutte d'eau dans un océan. Donc, de toute façon, c'est vraiment limite juste pour moi que je le fais. Je sais qu'ils me répondront jamais. Et mais vraiment, je vous assure que tout est vrai. Peut-être 2 ou 3 minutes après, je reçois direct une réponse et je vois tout de suite, parce que tu sais, quand tu as ton Gmail, tu as la première, tu as l'aperçu, tu vois. Mail. Et je vois que c'est pas un message automatique genre on a bien reçu votre mail, on vous répond sous 48 heures de délai, blablabla. Je vois mon prénom, genre salut Nina ou bonjour Nina, et là je vois je crois que tu t'es trompée, et je vois le 3 petits points. Et je me dis putain, sans déconner. Et j'ouvre le mail et je vois que donc cette CEO a pris le soin de me répondre pour me signaler que je n'ai pas envoyé le bon email. Et qu'il y a littéralement, donc dans le mail que je lui ai envoyé, le prénom de l'autre
CEO. Donc la concurrente.
La concurrente numéro 1 qu'elle connaît évidemment à tous les coups, le nom de l'autre boîte, les autres produits, les autres erreurs de l'autre blog. Enfin, le truc, mais le cauchemar, franchement, je vois ça et je me liquéfie. Je commence, j'étais toute seule chez moi, mais vraiment, je parle seule, je crie seule et je me prends la tête comme ça et je dis à haute voix, je fais oh non. Oh putain, c'est pas possible. Oh putain, oh putain. Et je jure comme ça, je pense 15 fois. Je me mets sur mon lit et je prends mon oreiller et je mets ma tête sous mon oreiller et j'ai très envie de pleurer à ce moment-là. Et une panique totale, une incapacité à prendre du recul aussi totale. Et donc, je prends mon téléphone et j'envoie un message direct à mon mec en disant « J'ai fait ça, c'est horrible. Qu'est-ce que je fais ? Je panique, j'ai fait ça. C'est une catastrophe, quoi. » Et je sais qu'à ce moment-là, vraiment... Là, j'en parle avec beaucoup de recul et puis maintenant, ça me paraît dérisoire, mais c'est comme si ma carrière s'était arrêtée à ce moment-là, quoi. Je me dis, mais elle va, alors déjà, elle va savoir que je fais mal mon travail, elle va penser que je fais mal mon travail, elle va en parler autour d'elle, elle va en parler à cette femme, peut-être qu'elle se connaît, c'est qu'elle est son copine et qu'elle va se dire, alors si elle t'écrit, laisse tomber, elle est super mauvaise, c'est vraiment du tout foutage de gueule. Je me raconte une espèce d'histoire autour de ça. Ça prend une proportion énorme dans ma tête parce que sous le coup de l'émotion, parce que beaucoup d'émotions, parce que super enceinte aussi et que donc les hormones ne m'aident pas du tout. Et je me dis, mais c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Et donc, je me dis, je ne vais pas lui répondre. Je vais m'enterrer sous terre et je vais ghoster et je vais disparaître. Et puis, tant pis, voilà, je ne lui parlerai plus jamais. Et puis, je ne sais pas, je vais me reconvertir, j'en sais rien, je vais trouver une solution. Et mon mec me répond juste un truc du genre, écoute, c'est pas grave, mais par contre, tu lui réponds et tu la joues franc jeu, quoi. Et mets un peu d'humour, enfin, on s'en fout, vraiment, c'est pas grave, Nina, quoi. Et ça me fait redescendre d'un cran assez rapidement et je me dis, ok, il faut que je lui réponde, je peux pas laisser dans l'état comme ça, c'est trop, c'est pas possible, c'est encore plus la honte, quoi. Et donc, je lui réponds et je prends mon ordi et je lui dis, je suis vraiment, mais désolée, c'est trop la honte. Je me suis complètement plantée. Je te jure que j'avais vraiment envie de t'écrire. Juste, j'ai interverti les deux mails. Mais ça n'empêche que je t'adore et que j'adore ta compagnie et que franchement, j'aimerais trop écrire pour toi, même si je pense que maintenant, c'est vraiment mais dead, quoi. Mais c'est pas grave, je te le dis quand même. J'ai sorti mes rames et j'ai vraiment parlé avec le cœur en me disant, pas en essayant de faire « non, mince, il semblerait que je sais pas quoi, avec copywriting à deux balles », je lui ai dit « je suis vraiment désolée, je me suis grave emmêlé les pinceaux, je suis enceinte de 8 mois, je sais pas ce que je suis en train de foutre, en train de prospecter maintenant, c'est pas du tout le moment, mais voilà ». Et elle m'a répondu super gentiment, il n'y a pas de problème, par contre, on gère en interne, et elle m'a quand même rajouté, par contre, voilà, clairement, on prendra pas quelqu'un qui sollicite aussi la concurrence, enfin, je te le dis clairement, quoi. Normal, et complètement normal, et évidemment, mais ça m'a vraiment pas fait marrer sur le coup, et en même temps, je me suis dit, mais des histoires comme ça, il doit y en avoir tout le temps. Et donc, quand t'as lancé ton podcast, quand t'as lancé ton concours sur LinkedIn, en parlant du fait que ça pouvait être un sujet de podcast, et enfin voilà, que ça c'était complètement lié au premier. Enfin, quand t'as demandé à ceux qui étaient chauds de participer à ton concours en racontant une première fois, c'est la première chose qui m'est venue. Je me suis dit, mais c'est sûr que ça va faire écho dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et il y en a plein qui doivent pas du tout l'assumer. Et alors que je pense qu'on est, mais tellement nombreux à faire cette bourde tous les jours quand on est fatigué, on prospecte mal. Donc voilà.
Ça arrive, et puis tu le racontes très bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit à ce moment-là, c'est toi tu l'as vécu comme un drame, c'est la fin de ta carrière, donc c'est souvent notre esprit qui nous impose des choses, alors qu'au final il n'y a pas vraiment de concurrence dans nos domaines, c'est souvent notre propre limite qui justement coupe un petit peu l'herbe qu'on a sous le pied, donc c'est un petit peu dommage. Après t'as pris du recul, j'aime beaucoup ton copain aussi, parce qu'il a un bon recul par rapport aux choses, quoi. Ça va, c'est pas grave, Bonjour. C'est pas la mort. C'est sûr que sur le moment, ça fait chier, quoi. T'as pris du temps. Mais après, il y a plein de facteurs à prendre en compte. T'es enceinte, t'es fatiguée, tu t'es relue. Comme tu dis, t'as oublié certaines choses et ça arrive, c'est comme ça. C'est cool, c'est qu'elle t'a répondu. Donc, ça se trouve, t'as inventé en fait une technique de prospection pour que les gens te répondent. C'est-à-dire que t'envoies un message au concurrent en disant « Salut Paul, en fait, finalement, c'est Pierre que tu voulais joindre. » Et ça se trouve, ça va marcher. Bon, si ça avait été concluant et la personne t'avait dit « Ok, on travaille ensemble », je pense que ça aurait été une méthode. Là, elle a quand même eu la gentillesse de te répondre. Voilà, ça arrive, c'est une bourde, effectivement. Je comprends que sur le moment, on puisse être désemparé. Heureusement que ça t'a pas fait déclencher, notamment l'accouchement. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose émotionnellement qui est pas simple. Mais c'est cool que tu aies pu en parler, nous dire comment tu l'avais notamment géré. Maintenant, on va passer à une dernière première fois. On arrive presque à la fin de l'épisode. Un peu moins sexy cette première fois. On a parlé de pas mal de choses positives. Là, on va parler des premiers haters. Donc, les gens qui n'aiment pas forcément ce qu'on fait, qui nous jugent un petit peu facilement, sans forcément avoir des avis constructifs. Moi, ce que j'aime chez les haters, c'est pour ça que j'aime pas les appeler les haters, mais c'est les gens qui sont pas d'accord avec nous, qui n'ont pas la même opinion, c'est d'avoir un retour qui est constructif. Tiens, j'aime pas ce que tu fais, mais parce qu'il y a cet angle-là qui pourrait être amélioré. J'adore et j'en ai beaucoup avec qui j'échange. Je suis même prêt à faire des podcasts avec ces gens-là parce que je ne cherche pas qu'à avoir des gens qui sont d'accord avec moi-même. Au contraire, c'est en élargissant un petit peu notre vision qu'on peut s'enrichir et c'est vachement bien de le faire, je trouve. Donc, dis-nous-en un peu plus, tes premiers haters, comment tu l'as vécu. Je crois que ça a été un peu difficile dans le sens où ça t'a permis de te remettre en question, mais c'est pas forcément facile à gérer, surtout quand, de base, tu as envie de le faire pour ce côté un peu bienveillant et pour délivrer de la valeur.
Ouais, exactement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, je suis pas fan non plus de ce terme de haters, parce que déjà, on parle de haine, c'est comme si on disait des haineux, et je n'ai pas reçu de haine clairement sur LinkedIn, parce que c'est vraiment là que pour le coup je produis du contenu. Je suis pas active sur les autres réseaux sociaux, professionnellement parlant en tout cas, mais j'ai pas reçu de haine, j'ai pas reçu d'insultes, j'ai pas reçu ce genre de choses du tout. Mais c'est vrai que je publie assez régulièrement depuis quelques temps sur LinkedIn, et moi j'aime bien des sujets qui sont un peu touchy, parce que je me considère, comme beaucoup beaucoup de gens, mais je me considère comme féministe, et j'aime bien parler de ce genre de sujets. J'aime bien les sujets de société. Je reste en dehors des sujets politiques, clairement, parce que là, je pense qu'on partirait sur des débats qui n'ont pas forcément leur place sur ce genre de réseau. Mais j'aime bien, tendre une oreille, écouter ce qui se passe à la radio, écouter ce qui se passe dans les podcasts, et en faire après des sujets. Et tout ce qui relate du féminisme, de la maternité, de la place des femmes dans le monde du travail, de la place de la PMA dans le monde du travail, ce genre de choses, parce que je suis passée par cette case, donc je me sens assez légitime pour en parler. J'aime bien créer des posts là-dessus et j'aime bien, alors d'une part donner mon avis, mais j'aime bien aussi pas avoir un avis sur tout et donner un peu, voilà, deux tendances dans un poste et dire voilà, je pense ça, mais je pense aussi un peu son contraire. Est-ce que je suis la seule à être dans cette un peu cette bipolarité de pensée dans ma vie, quoi, et après voir ce qui se passe. Et sauf que c'est souvent des sujets un petit peu clivants, on va dire, et je sais aussi que ma vision de la maternité n'est pas celle de tout le monde. J'aime mes enfants à en crever, je pense que j'enfonce une porte ouverte là-dessus, mais j'aime aussi beaucoup mon travail. J'aime très très fort mon travail, j'adore travailler, j'adore être branchée sur mon ordi, je pense à mon entreprise tout le temps. Moi, j'ai pas eu de problème à reprendre le boulot au bout de 2 mois et demi à la fin du congé mat de mes enfants. J'étais même super contente de le refaire parce que j'étais pas faite pour garder mes enfants longtemps, plus de 6 mois, et je sais, enfin plus de 6 mois, enfin voilà, il y a plein de mamans, plein de parents qui gardent leurs enfants longtemps, qui sont en congé parentaux, etc. Moi, c'est pas fait pour moi, et j'en ai conscience, mais je sais que c'est des choses qui se disent moins. On a tendance à avoir envie que les femmes se sentent très coupables de laisser leurs enfants à la crèche, que ce soit très difficile, que ce soit un déchirement. Moi, voilà, pas du tout. Mon fils est gardé à l'étage au-dessus de chez moi. J'ai aussi beaucoup de chance là-dessus. Il est gardé par une femme qui est absolument fantastique, qui a toute ma confiance. Voilà, je suis très sereine vis-à-vis de ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance aussi. J'ai des facteurs de chance qui jouent beaucoup. Toujours est-il que je sais que je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un d'assez accro à son boulot. J'ai une vision de la maternité assez un peu clivante par rapport à ça. Et parfois, quand je fais des posts sur le sujet, il y a des femmes à qui ça plaît pas trop. Souvent, alors quand il y a Jean-Luc qui vient m'expliquer comment être mère, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai eu, mais ça me fait vraiment... voilà, c'est rigolo, quoi. Je sais plus. On les embrasse, pardon, pour les Jean-Luc qui nous écoutent, s'il y en a. J'ai rien contre les Jean-Luc, mais c'est un peu l'idée, quoi. Le mâle de 51 ans, blanc, de cadre, je sais pas, chez Engie, enfin, qui vient m'expliquer comment être mère et pourquoi je vais faire un burn-out parce que je pense trop à mon entreprise. Ça, voilà, ça me passe vraiment au-dessus de la tête. Mais par contre, effectivement, quand je publie sur des sujets comme ça, sur la maternité, sur la façon dont j'élève ma fille, sur l'éducation genrée, non genrée, enfin voilà, sur ce genre de sujet qui soulèvent un peu les foules, hein, qui sont un peu, qui créent l'émotion quand même chez les gens, parce que c'est, de toute façon, l'éducation, c'est quand même très un peu tabou, quoi. Il y a des femmes qui parfois répondent des choses un peu difficiles à lire, et qui sont ultra constructives, mais qui génèrent en moi une espèce d'envie de m'excuser tout de suite qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire que je sais que j'ai des avis sur les choses, que j'ai pas cette peur de publier sur les réseaux, tu vois, j'aime bien en parler, quoi qu'il y a des sujets vraiment que je garde pour moi, parce que je me dis, si je commence à publier là-dessus, je pense que ça va être trop intense pour moi au niveau du retour de commentaires. Mais c'est vrai que parfois, il y a des commentaires qui arrivent qui sont difficiles à lire et qui sont... pas à la limite du constructif et de l'agressif, tu vois ce que je veux dire, ces commentaires-là vraiment où t'es pas insulté de je sais pas quoi, où là tu te dis bon c'est trop, c'est bien sûr que je prends pas ça en compte, mais qui sont vraiment qui te font sentir un peu comme une merde et comme si t'avais tort sur toute la ligne et comment on peut penser un truc pareil quand on est une mère, tu vois, mais qui sont un peu argumentés quand même. Et ça, ces commentaires-là, je les trouve vachement difficiles à processer parce que c'est une vraie remise en question derrière, parce que tout de suite, moi, quand je les lis, je me dis, mais putain, elle a raison, mais c'est vrai ce qu'elle dit, je me plante sur toute la ligne, mais pourquoi j'ai écrit ça? Tu vois, ça génère un vrai doute, un vrai truc super compliqué. Et je sais que les premières fois que j'ai reçu ces commentaires, je pense notamment à une femme qui avait commenté sur un post assez récemment que je lui faisais penser que ce que j'écrivais était infiniment culpabilisant pour les femmes, sur le fait que j'avais repris tout de suite après mon congé mat, etc., etc., et que j'avais été complètement ok avec ça, que j'avais eu une chance inouïe que ma grossesse se passe bien, que en gros que toutes les femmes ne passaient pas par là, et que ce que j'écrivais c'était hyper culpabilisant, et que je lui faisais penser à Rachida Dati qui était retournée au boulot 2 jours après son accouchement. Et cette nana, en plus, était psychologue. Enfin, est psychologue. Et je me dis, putain, La violence de ce commentaire, surtout par une personne qui bah du coup incarne une certaine noblesse dans son métier, tu vois, je me dis mais qu'est-ce que j'ai écrit quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait, ce que j'ai dit c'est n'importe quoi, c'est terrible. Et c'est compliqué de prendre du recul dans ces moments-là. Parce que du coup, t'as envie de t'excuser presque, tu vois, t'as envie d'aller voir la personne et lui dire « t'as raison ». Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie, c'est vrai que c'est un comportement qui m'est propre, mais cette envie, encore une fois, je pense conditionnée au genre féminin de s'excuser, d'être là et d'avoir osé publier sa pensée, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de très propre aux femmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand ça vient de son propre camp entre guillemets. Je suis pas du tout clivante, genre j'aime pas les hommes ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est vrai que quand ça vient de la part d'un homme, je me dis bon, ça me fait voilà, ça me passe, ça, je m'en fous quoi. Vraiment, ça ne me touche pas. Quand ça vient d'une femme, il y a un peu un truc de mais pourquoi, tu vois, pourquoi c'est pas déjà assez compliqué comme ça quand même entre nous, franchement il faut vraiment que tu viennes me pourrir mon truc, tu vois. Après encore une fois, je suis hyper, il y a plein de commentaires qui arrivent qui sont super constructifs où on n'est pas du tout d'accord avec moi et là ça engendre une discussion et souvent je suis d'accord avec la personne qui écrit et souvent je commente mais t'as grave raison et je suis complètement d'accord aussi, je trouve que ta perception de la réalité vaut autant que la mienne et est tout aussi intéressante. Mais voilà, parfois il y a quelques détracteurs, quelques utopistes qui viennent et qui génèrent vraiment un gros chamboulement.
Ça arrive et c'est normal. J'ai même envie de dire, c'est bien de temps en temps de se remettre en question. Après, moi, je pense qu'il faut assumer ce qu'on dit. C'est à partir du moment où on appuie sur publier, il faut être en phase avec ce qui va être perçu comme retour. C'est pour ça que moi, quand j'écris, je ne dis pas que j'ai la science infuse sur ça, je me suis planté sur des trucs aussi, je me suis pris des remarques ou autres. Moi, je suis très à l'aise avec les remarques. Hein. Quand on me dit des fois, comment tu réagis face aux haters, face moi, il faut savoir donc, que j'ai une entreprise depuis 8 ans, j'ai eu des salariés, et un jour, j'ai eu des problèmes économiques, et j'ai un salarié en face de moi qui m'a dit, votre entreprise, elle peut couler, j'en ai strictement rien à foutre. Ça, c'est blessant. Surtout quand on te regarde droit dans les yeux. Donc des gens qui me disent « c'est pourri ce que tu fais, vas-y dégage, retourne sur je ne sais pas quoi », je m'en fous littéralement. Mais là où je fais attention, c'est dans la perception des choses. Quand moi j'ai un côté un peu radical, virulent de dire les choses par rapport à ce que j'ai pu vivre, je me dis aussi peut-être que d'autres personnes ne l'ont pas vécu, donc comment tourner les choses pour pas que ce soit trop mal interprété. Donc c'est pas simple. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires aussi constructifs, même si ça peut paraître haineux, entre guillemets, en tout cas par rapport à l'agressivité et la manière dont la personne a parlé. Ça a été vraiment bénéfique parce que tu prends conscience de certaines choses, mais je pense qu'il faut vraiment assumer les choses. Assumer, même si la personne n'est pas d'accord avec toi, bah voilà, c'est ta position, tu la défends. Bon, si tu mets un truc et que tu as 150 personnes qui disent c'est de la merde, là, il y a un truc. Ça veut dire que là, c'est une grande majorité de personnes qui te font comprendre que ce que tu écris, c'est pourri, quoi. Donc c'est pas simple, c'est pas évident. Moi on m'a déjà critiqué sur j'ai fait un post toutefois en disant depuis que j'ai 25 ans j'ai perdu mes cheveux. Donc, on m'a critiqué sur ça, j'en ai strictement rien à foutre. Je dis ce que j'ai envie, je le tourne à ma façon. Et puis t'as plein d'hommes aussi qui sont reconnus dans ce que j'avais écrit et qui disent ouais voilà, perdre ses cheveux, voilà, c'est compliqué pour un homme, d'autres le vivent plutôt bien. Bon, c'est comme ça, faut l'accepter. Il y en a qui m'avaient dit bah va en Turquie, tu vas avoir une super moumoute. C'est drôle, moi je le prends sous le ton de la rigolade, mais il y a des sujets, parfois effectivement, t'as des gens qui sont là, alors je parle pas des Jean-Luc hein, dont t'as parlé tout à l'heure, mais je parle des gens qui sont là un petit peu pour nous remettre sur les rails, entre guillemets, par rapport à des pensées qui vont un petit peu trop loin, donc c'est pas simple, c'est pas évident, mais en tout cas je te remercie pour ce retour et ce partage d'expérience.
Avec plaisir.
On arrive à la fin de cet épisode. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. J'espère vous aussi qui nous écoutez, vous avez apprécié en tout cas Nina. Si vous voulez la retrouver en tout cas sur LinkedIn, n'hésitez pas sur les réseaux. Pourra nous dire voilà pas mal de choses encore par rapport à ses expériences. T'es au début de ton activité, donc je pense que tu vas vivre encore plein de choses. Nina, ce que je pose à tous mes invités comme question. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui nous écoute pour se lancer dans l'entrepreneuriat
Ne répondez pas aux Jean-Luc. Non, je plaisante.
Sauf à tous les Jean-Luc. Je conseillerais de mettre un peu son cerveau en pause, de pas trop, d'écouter sa peur, mais de pas trop l'écouter non plus. que si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas non plus. De vraiment bien réfléchir à son projet, que c'est OK de se planter. Et encore, enfin voilà, moi je sais que je vais me planter encore 5000 fois sur plein de trucs, sur des devis, sur des factures. Voilà, il faut lutter contre ce syndrome terrible de l'éternel apprenant et de se dire OK, j'irai quand je serai vraiment super bien formé, que je saurai super bien vendre et que je saurai super bien faire des facturations, des factures et des devis. Là, je sais que je pourrais vraiment me lancer sur le marché. Non, je crois qu'il faut vraiment y aller, apprendre sur le tas. Il y a un peu cette devise que j'adore, qui moi un peu mon mantra, c'est fake it until you make it. Tu vas apprendre, tu vas te planter. Moi, je me suis plantée plein de fois. Je me suis même plantée de projet. C'est pas grave. C'est vraiment en me plantant que je me suis rendu compte que j'étais appelée par autre chose et ailleurs. Je pense qu'on se façonne vraiment en chemin et que à la fin ça donne un truc vraiment très 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 cool, mais que personne ne débarque sur le terrain de l'entrepreneuriat nickel avec 100% de bonnes notes en vente, 100% de bonnes notes en création de contenu LinkedIn. Voilà, faut y aller, faut se lancer, faut faire des trucs, faut accepter de faire des trucs nuls, faut accepter de faire des flops aussi sur les réseaux, faut accepter de se prendre des vents parfois et se dire que finalement tout ça n'est pas si grave, tout ça n'est pas bien grave. Voilà, je pense que moi c'est vraiment ça qui m'a porté jusqu'à maintenant, aussi beaucoup de recul, beaucoup d'intensité dans ce parcours, mais aussi beaucoup de recul sur le fait que tout ça n'est pas bien grave au fond. Ce qui compte, c'est la santé de mes enfants, ce qui compte, c'est que tout aille bien à ce niveau-là. Et que le reste, finalement, c'est comme un grand, grand terrain de jeu et qu'il faut le prendre parfois un petit peu avec, voilà, avec un petit peu d'humour, comme notamment ce poste et cette situation burlesque de ratage, de prospection. Vraiment, voilà, garder en tête que tout va bien se passer et qu'on va en sortir entier, quoi.
Yes, magnifique conclusion. Et comme tu dis, se planter, c'est normal, même les plus grands, même Steve Jobs, même ceux qu'on aime bien mettre en avant, qu'on idolâtre ou autre. Enfin, il faut vraiment se dire que ces gens-là, ils ont essayé des dizaines de fois, des milliers de fois. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas les gens sur les réseaux qui disent « j'ai fait 300 000 euros en un mois ». Non, explique que ça fait 10 ans que tu es dedans, que tu galères, que tu t'es planté 37 fois avant. Donc j'aime ton message parce que c'est le bon message, je pense, même s'il n'y a pas de message clé entre guillemets dans l'entrepreneuriat, mais c'est en testant et en innovant en tout cas qu'on apprend. Un grand merci à toi, c'était très cool de t'avoir ici dans le podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ».
Plaisir partagé Alexandre, encore merci pour l'invitation.
Et bravo à toi pour le concours que tu as gagné encore une fois à première place. Donc on va bientôt accueillir le deuxième et la troisième et toi tu seras en première justement pour montrer un petit peu que voilà, à travers ton poste tu as su faire résonner quelque chose et puis ça a été payant.
Merci beaucoup Alexandre.
Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée très prochainement. Merci à toutes et à tous, à bientôt. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.